Aristote, Métaphysique, livre 13, chapitre 1 à 6. Chapitre 1. Nous avons dit dans notre traité de physique quelle est la nature de la substance des choses sensibles. D'abord en traitant de la matière, puis ensuite quand il s'est agi de la substance en acte. Voici quel est maintenant l'objet de nos recherches. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas, en dehors des substances sensibles, une substance immobile et éternelle? Et si cette substance existe, quelle est sa nature? Commençons par examiner les systèmes des autres philosophes afin de ne point partager leurs erreurs, et dans le cas où quelques-unes de leurs opinions ne seraient pas fondées. Et si par aventure nous trouvions des points de doctrine qui leur fussent communs avec nous, gardons-nous d'éprouver en nous-mêmes aucun sentiment pénible. Ce doit être un titre à nos respects que d'avoir sur certaines choses des vues supérieures aux nôtres et de n'être pas sur d'autres points inférieurs à nous. Il y a deux systèmes relativement au sujet qui nous occupe. On admet comme substance particulière les êtres mathématiques tels que les nombres, les lignes, les objets du même genre et avec eux les idées. Il en est qui font de ces êtres deux genres différents, les idées d'un côté et de l'autre les nombres mathématiques. D'autres font de ces deux genres une seule et même nature. Quelques autres, enfin, prétendent que les substances mathématiques seules sont des substances. Commençons par l'examen des substances mathématiques et examinons-les indépendamment de toute nature. Ne nous demandons point, par exemple, si elles sont ou ne sont pas des idées, si elles sont ou ne sont pas les principes et les substances des êtres. Demandons-nous, comme si nous n'avions à nous occuper que des êtres mathématiques, si ces substances existent ou n'existent pas, et si elles existent, quel est le mode de leur existence. Puis, nous parlerons séparément des idées elles-mêmes, sans trop de développement, et dans la mesure qui convient au but que nous nous proposons. Car presque toutes les questions qui se rapportent à ce sujet ont été rebattues déjà dans nos traités exotériques. Dans le cours de notre examen, nous aurons encore à discuter longuement sur cette question. Les substances et les principes des êtres sont-ils des nombres et des idées? Car c'est là une troisième question qui vient après celle des idées. Les êtres mathématiques, s'ils existent, sont nécessairement dans les objets sensibles, comme l'avancent quelques-uns, ou bien ils en sont séparés, et il en est aussi qui admettent cette opinion. S'ils ne sont ni dans les objets sensibles, ni en dehors d'eux, ou ils n'existent pas, ou bien ils existent d'une autre manière. Notre doute portera donc ici, non pas sur l'être lui-même, mais sur la manière d'être. Chapitre 2. Nous avons dit, quand il s'agissait des difficultés à résoudre, qu'il était impossible que les êtres mathématiques existassent dans les objets sensibles, et que c'était là une pure fiction, parce qu'il est impossible qu'il y ait en même temps deux solides dans le même lieu. Nous avons ajouté que la conséquence de cette doctrine, c'est que toutes les autres puissances, toutes les autres natures, se trouveraient dans les choses sensibles et qu'aucune n'en serait indépendante. Voilà ce que nous avons dit précédemment. Il est évident d'ailleurs que dans cette supposition, un corps quelconque ne saurait être divisé. Alors, en effet, Le solide se diviserait par la surface par la ligne par le point. En sorte que, si le point ne peut être divisé, la ligne est indivisible. Mais si la ligne est indivisible, tout dans le solide l'est également. Qu'importe du reste que les êtres mathématiques soient ou ne soient pas de telles ou telles natures, si ces natures, quelles qu'elles soient, existent dans les choses sensibles. On arrive toujours au même résultat. La division des objets sensibles entraînerait toujours leur division, ou bien il n'y aurait pas de division, même des objets sensibles. Il n'est pas davantage possible que les natures dont il s'agit aient une existence indépendante. S'il y avait, en dehors des solides réels, d'autres solides qui en fussent séparés, des solides antérieurs aux solides réels, évidemment, il y aurait aussi des surfaces, des points, des lignes existant séparément. Le cas est en effet le même. Mais s'il en est ainsi, il faut admettre encore, en dehors du solide mathématique, l'existence séparée d'autres surfaces, avec leurs lignes et leurs points, car le simple est antérieur au composé. Et puisqu'il y a des corps non sensibles, antérieurs aux corps sensibles, par la même raison, il doit y avoir des surfaces en soi, antérieures aux surfaces qui existent dans les solides immobiles. Voilà donc des surfaces avec leurs points différentes de celles dont l'existence est attachée à l'existence des solides séparés. Celles-ci existent en même temps que les solides mathématiques. Celles-là sont antérieures aux solides mathématiques. D'un autre côté, dans ces dernières surfaces, il y aura des lignes. Et par la même raison que tout à l'heure, il devra y avoir des lignes avec leurs points antérieurs à ces lignes. Et enfin, d'autres points antérieurs aux points de ces lignes antérieures et au-delà desquels il n'y aura plus d'autres points antérieurs. Or, c'est là un entassement d'objets. Vous avez en effet, par suite de l'hypothèse, en dehors des choses sensibles, d'abord une espèce unique de corps, puis trois espèces de surfaces. Les surfaces en dehors des surfaces sensibles, les surfaces des solides mathématiques, les surfaces en dehors des surfaces de ces solides. Puis quatre espèces de lignes, puis cinq espèces de points. Quels seront donc alors parmi ces éléments dont s'occuperont les sciences mathématiques? Ce ne seront sans doute pas les plans, les lignes, les points qui existent dans le solide immobile, car la science a toujours pour objet ce qui est premier. Le même raisonnement s'applique au nombre. Il y aurait des monades différentes en dehors de chaque point différent, puis des monades en dehors de chacun des êtres sensibles, puis des monades en dehors de chacun des êtres intelligibles. Il y aurait par conséquent une infinité de genres de nombres mathématiques. Comment d'ailleurs arriver à la solution des difficultés que nous nous sommes proposées quand il s'agissait des questions à résoudre? L'astronomie a pour objet des choses suprasensibles, tout aussi bien que la géométrie. Or, comment peut-on concevoir l'existence séparée du ciel et de ses parties, ou de toute autre chose qui est en mouvement? Même embarras pour l'optique, pour la musique. Il y aura un son, une vue, isolés des êtres sensibles, des êtres particuliers. La conséquence évidente, c'est que les autres sens et les autres objets sensibles auraient une existence séparée. Car, pourquoi ceux-ci plutôt que ceux-là? Or, s'il en est ainsi, s'il y a des sens séparés, il doit y avoir des animaux séparés. Enfin, les mathématiciens admettent certains universaux en dehors des substances dont nous parlons. Ce serait donc là une autre substance intermédiaire, séparée des idées et des êtres intermédiaires. Substance qui ne serait ni un nombre, ni des points, ni une grandeur, ni un temps. Mais cette substance ne saurait exister, et par suite, il est impossible que les objets dont nous venons de parler aient une existence séparée des choses sensibles. En un mot, si l'on pose les grandeurs mathématiques comme des natures séparées, la conséquence est en opposition avec la vérité et avec les opinions communes. Il est nécessaire, si tel est leur mode d'existence, qu'elles soient antérieures aux grandeurs sensibles. Or, dans la réalité, elles leur sont postérieures. La grandeur incomplète a, il est vrai, la priorité d'origine, mais substantiellement, elle est postérieure. C'est là le rapport de l'être inanimé avec l'être animé. Quel principe, d'ailleurs, quelle circonstance constituerait-elle l'unité des grandeurs mathématiques? Ce qui fait celle des corps terrestres, c'est l'âme. C'est une partie de l'âme. C'est quelque autre principe participant de l'intelligence. Principe sans lequel il y a pluralité, dissolution sans fin. Mais les grandeurs mathématiques, qui sont divisibles, qui sont des quantités, quelle est la cause de leur unité et de leur persistance? La production est une preuve encore. La production agit d'abord dans le sens de la longueur, puis dans le sens de la largeur, dans celui de la profondeur. Et c'est là le terme définitif. Si maintenant, ce qui a la postériorité d'origine est antérieur substantiellement, le corps doit avoir la priorité sur la surface et sur la longueur. Et puis, le corps a une existence plus complète. Il est plus un tout que la grandeur et la surface. Il devient animé. Mais comment concevoir une ligne, une surface animée? Une telle conception dépasserait la portée de nos sens. Enfin, le corps est une substance, car déjà, il est en quelque sorte une chose complète. Mais les lignes, comment seraient-elles des substances? Ce n'est pas à titre de forme, de figure, comme l'âme, si telle est l'âme en effet. Ce n'est pas non plus à titre de matière, comme le corps. On ne voit pas que rien se puisse constituer avec des lignes, pas plus avec des surfaces, pas plus avec des points. Et pourtant, si ces êtres étaient une substance matérielle, ils seraient susceptibles, évidemment, de cette modification. Les points, les lignes et la surface ont, j'y consens, la priorité logique. Mais tout ce qui est antérieur logiquement n'est pas pour cela substantiellement antérieur. La priorité substantielle et le partage des êtres qui, pris isolément, ne perdent pas par là même leur existence. Ceux dont les notions entrent dans d'autres notions ont la priorité logique. Mais la priorité logique et la priorité substantielle ne se rencontrent pas l'une avec l'autre. Les modifications n'existent pas indépendamment des substances, indépendamment d'un être qui se meut, par exemple, ou qui est blanc. Le blanc a donc sur l'homme blanc la priorité logique, mais non pas la priorité substantielle. Il ne peut exister séparément. Toujours, son existence est attachée à celle de l'ensemble. Et ici, j'appelle ensemble l'homme qui est blanc. Il est évident d'après cela que ni les existences abstraites n'ont l'antériorité, ni les existences concrètes la postériorité substantielle. C'est en effet parce qu'il est joint au blanc que nous donnons à l'homme blanc le nom de blanc. Ce qui précède suffit pour montrer que les êtres mathématiques sont moins substance que les corps, qu'ils ne sont pas antérieurs par l'être même aux choses sensibles, qu'ils n'ont qu'une antériorité logique. Enfin, qu'ils ne peuvent en aucun lieu avoir une existence séparée. Et comme d'ailleurs, ils ne peuvent exister dans les objets sensibles eux-mêmes, il est évident, ou qu'ils n'existent absolument pas, ou bien qu'ils ont un mode particulier d'existence et par conséquent n'ont pas une existence absolue. En effet, l'être se prend dans plusieurs acceptions. Chapitre 3. De même que les universaux dans les mathématiques n'embrassent pas des existences séparées, des existences en dehors des grandeurs et des nombres, et que ce sont ces nombres et ces grandeurs qui sont l'objet de la science, mais non pas en tant que susceptibles de grandeur ou de division. De même, il est possible qu'il y ait des raisonnements, des démonstrations relatives aux grandeurs sensibles elles-mêmes, non pas considérées en tant que sensibles, mais en tant qu'elles ont telle ou telle propriété. On discute bien sur les êtres considérés uniquement en tant qu'ils se meuvent, sans aucun égard à la nature de ces êtres, ni à leurs accidents. Et il n'est pas pour cela nécessaire ou que l'être en mouvement ait une existence séparée des êtres sensibles, ou qu'il y ait dans les êtres en mouvement une nature déterminée. Ainsi donc, il peut y avoir des raisonnements, des sciences relatives aux êtres qui se meuvent, considérés non plus en tant qu'ils subissent le mouvement, mais uniquement en tant que corps, puis uniquement en tant que surface, puis uniquement en tant que longueur, puis en tant qu'ils sont divisibles ou indivisibles, tout en ayant une position. Enfin, en tant qu'ils sont seulement indivisibles. Puis donc qu'il n'y a absolument aucune erreur à donner le nom d'être, non seulement aux existences séparées, mais encore à celles qu'on ne peut séparer, aux objets en mouvement par exemple, il n'y a absolument pas d'erreur à attribuer l'être aux objets mathématiques et à les considérer comme on les considère. Et, de même que les autres sciences ne méritent réellement le titre de science que lorsqu'elles traitent de l'être dont nous parlons et non pas de l'accident. Lorsqu'elles se demandent, par exemple, « Non produit la santé, c'est le blanc » parce que l'être qui produit la santé est blanc. Mais, ce qu'est cet être qui produit la santé? Lorsque chacune d'elles est la science de son objet même. Science de l'être qui produit la santé, si son objet est ce qui produit la santé. Science de l'homme, si elle examine l'homme en tant qu'homme. De même aussi, la géométrie ne cherche pas si les objets dont elle s'occupe sont accidentellement des êtres sensibles. Elle ne les étudie point en tant qu'êtres sensibles. Par conséquent, les sciences mathématiques ne traitent pas des êtres sensibles. Elles n'ont pas néanmoins pour objet d'autres êtres séparés. Mais il y a une foule d'accidents qui sont essentiels aux choses, en tant que chacun d'eux réside essentiellement en elles. L'animal, en tant que femelle, et en tant que mâle, est une modification propre du genre. Toutefois, il n'y a rien qui soit ni femelle ni mâle, indépendamment des animaux. On peut donc considérer les objets sensibles uniquement en tant que longueur, en tant que surface. Et, plus les objets de la science sont primitifs selon l'ordre logique, et plus ils sont simples, plus aussi la science a de rigueur, car la rigueur, c'est la simplicité. la science de ce qui n'a pas de grandeur est plus rigoureuse que la science de ce qui a grandeur. Si son objet n'a pas de mouvement, elle est bien plus rigoureuse encore. C'est la science du premier mouvement qu'il est le plus dans les sciences du mouvement, car c'est là le mouvement le plus simple, et le mouvement uniforme est le plus simple parmi les mouvements premiers. Même raisonnement pour la musique et pour l'optique. Ni l'une ni l'autre ne considère la vue en tant que vue, le son en tant que son. Elle traite de ligne en tant que ligne, de nombre en tant que nombre, lesquelles sont des modifications propres de la vue et du son. De même pour la mécanique. Ainsi donc, lorsqu'on admet comme existence séparée quelques-uns de ces accidents essentiels, lorsqu'on traite de ces accidents en tant qu'existence séparée, on n'est pas pour cela dans le faux. Pas plus qu'on y serait, par exemple, si, mesurant la terre, on donnait au pied un autre nom que celui de pied. Ce n'est pas dans ce qu'on établit d'abord que réside jamais l'erreur. On peut arriver à des résultats excellents en établissant comme séparé ce qui n'est pas séparé. Ainsi fait l'arithméticien, ainsi le géomètre. L'homme est en effet un et indivisible en tant qu'homme. L'arithméticien, après l'avoir posé comme un et indivisible, cherchera ensuite quels sont les accidents propres de l'homme en tant qu'indivisible. Tandis que le géomètre ne le considère ni en tant qu'homme, ni en tant qu'indivisible, mais en tant que corps solide. Car les propriétés qui se manifestent dans l'homme, en supposant une division réelle, ces propriétés y existent en puissance, alors même qu'il n'y a pas de division. Aussi, les géomètres n'ont-ils pas tort? C'est sur des êtres que roule leur discussion. Les objets de leur science sont des êtres. Il y a deux sortes d'êtres, l'être en acte et l'être matériel. Le bien et le beau diffèrent l'un de l'autre. Le premier réside toujours dans des actions, tandis que le beau se trouve aussi dans les êtres immobiles. Ceux-là sont donc dans l'erreur qui prétendent que les sciences mathématiques ne parlent ni du beau ni du bien. C'est du beau surtout qu'elles parlent, c'est le beau qu'elles démontrent. Ce n'est pas une raison parce qu'elles ne le nomment pas de dire qu'elles n'en parlent point. Elles en indiquent les effets et les rapports. Les plus imposantes formes du beau ne sont-ce pas l'ordre, la symétrie, la limitation. Or, c'est là surtout ce que font apparaître les sciences mathématiques. Et puisque ces principes, je veux dire l'ordre et la limitation, sont évidemment cause d'une foule de choses, les mathématiques doivent évidemment considérer comme cause, sous un certain point de vue, la cause dont nous parlons, le beau en un mot. Mais c'est là un sujet que nous traiterons ailleurs plus à fond. Nous venons de montrer que les objets mathématiques sont des êtres et comment ils sont des êtres, à quel titre ils n'ont pas la priorité et à quel titre ils sont antérieurs. Chapitre 4. Arrivons maintenant aux idées et commençons par l'examen de la conception même de l'idée. Nous n'y rattacherons pas l'explication de la nature des nombres, nous l'examinerons telle qu'elle naquit dans l'esprit de ceux qui les premiers admirent l'existence des idées. La doctrine des idées fut, chez ceux qui la proclamèrent, la conséquence de ce principe d'Héraclite qu'ils avaient accepté comme vrai. Toutes les choses sensibles sont dans un flux perpétuel. Principe D'où il suit que, s'il y a science et raison de quelque chose, il doit y avoir, en dehors du monde sensible, d'autres natures, des natures persistantes, car il n'y a pas de science de ce qui s'écoule perpétuellement. Socrate se renferma dans la spéculation des vertus morales, et le premier, il chercha les définitions universelles de ces objets. Avant lui, Démocrite s'était borné à une partie de la physique. Il n'a guère défini que le chaud et le froid. Et les pythagoriciens, antérieurs à Démocrite, n'avaient défini que peu d'objets. Objets dont ils ramenaient les notions au nombre. Telles étaient les définitions de la propos, du juste, du mariage. Ce n'était pas sans motif que Socrate cherchait à déterminer l'essence des choses. L'argumentation régulière, tel était le but où tendaient ses efforts. Or, le principe de tout syllogisme, c'est l'essence. La dialectique n'était pas encore, en ce temps-là, une puissance assez forte pour raisonner sur les contraires, indépendamment de l'essence, et pour déterminer si c'est la même science qui traite des contraires. Aussi, est-ce à juste titre qu'on peut attribuer à Socrate la découverte de ces deux principes, l'induction et la définition générale. Ces deux principes sont le point de départ de la science. Socrate n'accordait une existence séparée ni aux universaux, ni aux définitions. Ceux qui vinrent ensuite les séparèrent et donnèrent à cette sorte d'être le nom d'idée. La conséquence où les amenait cette doctrine, c'est qu'il y a des idées de tout ce qui est universel. Ils se trouvèrent à peu près dans le cas de l'homme qui, voulant compter un petit nombre d'objets, est persuadé qu'il n'en viendra pas à bout, on augmenterait le nombre pour mieux compter. Il y a en effet, si je ne me trompe, un plus grand nombre d'idées que de ces êtres sensibles particuliers dont il cherchait les causes, recherche qui les a conduits des êtres sensibles aux idées. Il y a d'abord, indépendamment des idées des substances, l'idée de chaque être particulier, idée qui est la représentation de cet être. Puis, des idées qui embrassent un grand nombre d'êtres dans leur unité, et pour les objets sensibles, et pour les êtres éternels. Ce n'est pas tout. Aucune des raisons sur lesquelles on appuie l'existence des idées n'a une valeur démonstrative. Plusieurs de ces raisons n'entraînent pas nécessairement la conclusion qu'on en déduit. Les autres mènent à admettre des idées d'objets pour lesquelles la théorie ne reconnaît pas qu'il y en ait. Si l'on tire les preuves de la nature des sciences, il y aura des idées de tout ce qui est l'objet d'une science. Il y en aura même des négations, si l'on nargue de ce que dans la multiplicité, il y a quelque chose qui est un. Si de la conception de ce qui est détruit, il y en aura des choses périssables. Car on peut, jusqu'à un certain point, se faire une image de ce qui a péri. Les raisonnements les plus rigoureux dont on se puisse servir conduisent les uns à des idées des relations, dont il n'y a pas de genre en soi, les autres à poser l'existence du troisième homme. En un mot, tout ce qu'on allègue pour prouver l'existence des idées détruit le principe que les partisans des idées ont plus à cœur d'établir que l'existence même des idées. En effet, la conséquence de cette doctrine, c'est que ce n'est pas la dyade qui est première, mais le nombre. C'est que la relation est antérieure au nombre et même à l'être en soi. Et toutes les contradictions avec leurs propres principes où sont tombés les partisans de la doctrine des idées. Ajoutons que s'il y a des idées, il doit y avoir des idées non seulement des essences, mais d'une foule d'autres choses encore. Car l'essence n'est pas la seule chose que l'intelligence conçoive d'une même pensée. Elle conçoit même ce qui n'est pas essence. Enfin, l'essence ne serait pas seule l'objet de la science, sans parler de toutes les autres conséquences du même genre qu'entraîne la supposition. Or, de toute nécessité, et d'après les caractères qu'on attribue aux idées, si l'on admet la participation des êtres avec elles, il ne peut y avoir d'idées que des essences. La participation des êtres avec les idées n'est point une participation accidentelle. Chacun d'eux n'y peut participer qu'en tant qu'il n'est pas l'attribut de quelque sujet. Voici du reste ce que j'entends par participation accidentelle. Admettons qu'un être participe du double. Alors, il participera de l'éternel aussi, mais accidentellement, car c'est accidentellement que le double est éternel. Il s'ensuit que les idées doivent être des essences. Les idées sont, et dans ce monde, et dans le monde des idées, la représentation des essences. Autrement, que signifierait cette proposition ? L'unité dans la pluralité est quelque chose en dehors des objets sensibles. Et d'ailleurs, si toutes les idées sont du même genre que les choses qui en participent, il y aura quelque rapport commun entre ces choses et les idées. Car pourquoi y aurait-il unité et identité du caractère constitutif de la dyade entre les dyades périssables et les dyades qui sont plusieurs aussi, mais éternelles, plutôt qu'entre la dyade idéale et la dyade particulière? S'il n'y a pas communauté de genre, il n'y aura de commun que le nom. Ce sera comme si l'on donnait le nom d'homme à Callias et à un morceau de bois, sans avoir rien remarqué de commun entre eux. Admettrons-nous, d'un autre côté, qu'il y a concordance des définitions générales avec les idées, ainsi pour le cercle mathématique, concordance avec les idées de la notion de figure plane et de toutes les autres parties qui entrent dans la définition du cercle. L'idée serait-elle adjointe à l'objet dont elle est l'idée ? Mais prenons garde que ce ne soit là des mots vides de sens. À quoi, en effet, l'idée serait-elle adjointe ? Est-ce au centre du cercle ? Est-ce à la surface ? Est-ce à toutes ses parties essentielles ? Tout dans les sens est une idée. L'animal est une idée. Le bipède est aussi une idée. On voit du reste assez que l'idée dont il s'agit serait nécessairement quelque chose, et comme le plan, une certaine nature, qui se rencontrerait à titre de genre dans toutes les idées. Chapitre 5. La difficulté la plus grande à résoudre, ce serait de savoir quelle peut être l'utilité des idées aux êtres sensibles éternels, ou à ceux de ces êtres qui naissent et à ceux qui périssent. Elles ne sont pour eux la cause d'aucun mouvement, d'aucun changement. Elles n'aident pas davantage à la science des autres êtres. Ce ne sont pas, en effet, les idées qui constituent l'essence de ces êtres, car alors elles seraient en eux. Ce ne sont pas elles non plus qui les amènent à l'existence, puisqu'elle ne réside pas dans les êtres qui participent des idées. Peut-être pensera-t-on qu'elles sont causes, au même titre que la blancheur est cause de l'objet blanc auquel elle se mêle. Cette opinion, qui a sa source dans les doctrines d'Anaxagore, que Dox, après lui, embrassa, ne sachant quelle partie prendre, et que quelques autres ont admise avec eux, est par trop facile à renverser. Il serait aisé d'accumuler contre une pareille doctrine des impossibilités sans nombre. Je vais plus loin. Il est impossible que les autres êtres proviennent des idées, dans aucun des sens où l'on emploie l'expression « provenir ». Dire que les idées sont des exemplaires et que les autres êtres participent des idées, c'est se payer de mots vides de sens, c'est faire des métaphores poétiques. Celui qui travaille à son œuvre a-t-il besoin d'avoir, pour cela, les yeux fixés sur les idées ? Un être quel qu'il soit peut exister, peut devenir, même sans que rien lui ait servi de modèle. Ainsi, que Socrate existe ou qu'il n'existe pas, il peut naître un homme tel que Socrate. Même conséquence, évidemment, quand même Socrate serait éternel. Ensuite, il y aurait plusieurs modèles de la même chose, et par conséquent plusieurs idées. Ainsi, pour l'homme, il y aurait l'animal, le bipède, l'homme en soi. Ce n'est pas tout. Non seulement les idées seraient les modèles des objets sensibles, elles seraient encore les modèles d'elles-mêmes. Tel serait le genre en tant que genre d'idée, d'où il suit que la même chose serait à la fois modèle et copie. Enfin, il n'est pas possible, ce semble, que l'existence existe séparément de ce dont elle est l'essence. Comment donc, alors, les idées qui sont les essences des choses auraient-elles une existence séparée ? Il est dit dans le Phédon que les idées sont les causes de l'être et du devenir. Eh bien, y eut-il des idées, il n'y aurait pas encore de production s'il n'y avait pas une cause motrice. Et puis, une foule d'autres choses deviennent une maison, un anneau par exemple, dont on ne prétend pas qu'il existe des idées. D'où il suit que les êtres pour lesquels on admet des idées sont susceptibles d'être et de devenir par l'action de causes analogues à celles qui agissent sur les choses dont nous venons de parler, et que ce ne sont pas les idées qui sont les causes de ces êtres. On peut du reste, par le même mode de réfutation que nous venons d'employer, et au moyen d'arguments plus concluants et plus rigoureux encore, accumuler contre la doctrine des idées une foule d'autres difficultés, semblables à celles que nous venons de rencontrer. Chapitre 6. Nous avons déterminé la valeur de la théorie des idées. Il nous faut maintenant examiner les conséquences de la théorie des nombres, considérées comme des substances indépendantes et comme les causes premières des êtres. Si le nombre est une nature particulière, s'il n'y a pas, pour le nombre, d'autres substances que le nombre lui-même, ainsi que le prétendent quelques-uns, nécessairement, alors, chaque nombre diffère d'espèce. Celui-ci est premier, celui-là vient en seconde ligne. Et par conséquent, ou bien il y a une différence immédiate entre les monades et une monade quelconque ne peut se combiner avec une monade quelconque. Ou bien, toutes les monades se suivent immédiatement et toute monade quelconque peut se combiner avec une monade quelconque. C'est ce qui a lieu pour le nombre mathématique. Car, dans le nombre mathématique, il n'y a aucune différence entre une monade et une autre monade. Ou bien, les unes se peuvent combiner, les autres ne le peuvent pas. Si nous admettons, par exemple, que la diade est première après l'unité, que la triade l'est après la diade, et ainsi de suite pour les autres nombres. Qu'il y a compatibilité entre les monades de chaque nombre particulier, entre celles qui composent la première diade, puis entre celles qui composent la première triade, puis entre celles qui composent chacun des autres nombres, mais que celles de la diade idéale ne sont pas combinables avec celles de la triade idéale, et qu'il en est de même pour les autres nombres successifs. Il s'ensuit que, tandis que dans les nombres mathématiques, le nombre 2 qui suit l'unité n'est que l'addition d'une autre unité à l'unité précédente, le nombre 3 l'addition d'une autre unité au nombre 2, et ainsi du reste. Dans les nombres idéaux, au contraire, le nombre 2 qui vient après l'unité est d'une autre nature et indépendant de l'unité première. Et la triade est indépendante de la dyade et ainsi des autres nombres. Ou bien, parmi les nombres, les uns sont dans le premier cas, d'autres sont des nombres au sens où l'entendent les mathématiciens, d'autres sont dans le dernier des trois cas en question. Enfin, où les nombres sont séparés des objets, ou ils n'en sont pas séparés. Ils existent dans les choses sensibles, non pas comme dans l'hypothèse que nous avons examinée plus haut, mais en tant que ce qui constituerait les choses sensibles, ce seraient les nombres résidant en elle. Et alors, ou bien entre les nombres, les uns existent, les autres n'existent pas dans les choses sensibles, ou bien tous les nombres y existent également. Tels sont les modes d'existence que peuvent affecter les nombres, et ce sont nécessairement les seuls. Ceux-mêmes qui posent l'unité comme principe, comme substance et comme élément de tous les êtres, et le nombre, comme le produit de l'unité et d'un autre principe, ont tous adopté quelqu'un de ces points de vue, excepté pourtant celui de l'incompatibilité absolue des monades entre elles. Et ce n'est pas sans raison. On ne saurait imaginer un autre cas en dehors de ceux que nous venons d'énumérer. Il en est qui admettent deux sortes de nombres. Les nombres dans lesquels il y a priorité et postériorité, ce sont les idées, et le nombre mathématique, en dehors des idées et des objets sensibles. Et ces deux sortes de nombres sont également séparés des objets sensibles. D'autres ne reconnaissent que le nombre mathématique, qu'ils considèrent comme le premier des êtres, et qu'ils séparent des objets sensibles. Le seul nombre, pour les pythagoriciens, c'est aussi le nombre mathématique, mais non plus séparé. C'est lui qui constitue, suivant eux, les essences sensibles. Ils organisent le ciel avec des nombres. Seulement, ces nombres ne sont point composés de monades véritables. Ils attribuent dans leur système la grandeur aux monades. Mais comment l'unité première peut avoir une grandeur? C'est une difficulté qu'ils ne résolvent pas, ce nous semble. Un autre philosophe n'admet qu'un seul nombre primitif idéal. Quelques autres identifient le nombre idéal avec le nombre mathématique. Même système relativement aux longueurs, aux plans, aux solides. Il en est qui admettent deux sortes de grandeurs, les grandeurs mathématiques et les grandeurs qui procèdent des idées. Parmi ceux qui sont d'une autre opinion, les uns admettent les grandeurs mathématiques mais ne leur donnent qu'une existence mathématique. Les autres admettent les grandeurs mathématiques mais leur donnent plus qu'une existence mathématique. Toute grandeur ne se partage pas en grandeur suivant eux, et la dyade ne se compose pas de toute monade quelconque. Ce qui constitue le nombre, ce sont les monades. Tous les philosophes sont d'accord sur ce point, excepté pourtant ceux des pythagoriciens, qui prétendent que l'unité est l'élément et le principe de tous les êtres. Cela attribue la grandeur aux monades, comme nous l'avons dit précédemment. Nous avons montré de combien de manières on pouvait envisager les nombres. On vient de voir l'énumération complète des diverses hypothèses. Toutes ces hypothèses sont inadmissibles. mais les unes le sont probablement plus que d'autres.